On m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h, 12h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Et il y a de la rillette, mais pas que. Bien le bonjour, les amis. Alors, confinés, déconfinés, reconfinés. Quoi qu'il en coûte, nous sommes là pour passer du bon temps avec vous jusqu'à midi et demi. C'est la centième, dites donc, ça passe vite. Hein. Alors on va mettre les petits plats dans les grands, on va pêcher le rouget en Méditerranée ce matin. Et puis le chef Michel Brass va nous donner sa recette du coulant au chocolat. Vous savez, ce dessert mythique, eh bien il sera là pour vous dans un instant. À trois jours des élections américaines, nous allons revenir sur les plats préférés des candidats, sans oublier les classiques made in USA. Ils sont élus d'office, voici mes bons vivants du jour, élus Miss Gastronomie. Astronomie au journal du dimanche. Elle nous régale de ses coups de fourchette et de ses portraits engagés. C'est Charlotte Langrand. Bonjour Charlotte.
Bonjour Laurent, bon anniversaire au bon vivant.
Bon anniversaire à vous, vous en faites partie. Même si les crues de la Napa Valley ont progressé, il est heureux de voter au pays du Bourgogne et des Côtes du Rhône. C'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Et c'est vrai que sans émission...
Ah oui, ça s'arrose.
Ça s'arrose. Et je suis venu avec quelques petits flacons pour fêter ça, figurez-vous.
Avec modération, mais surtout avec plaisir. Jean-Luc Petit-Renaud sera de la partie. Il va déclarer sa flamme à l'automne. Et pour la centième, un invité créatif, bourré de talent qui fait un bien fou, c'est le dessinateur et réalisateur Johan Sfar qui sera avec nous. Alors c'est vrai que le mois de novembre, déjà au niveau de la météo, n'est pas le plus heureux des mois. Avec l'actualité de ces derniers jours, le reconfinement, on a besoin de se faire plaisir à table et c'est ce qu'on va faire jusqu'à midi et demi. Et je voudrais avoir une pensée pour tous les commerçants qui nous écoutent, qui sont obligés de fermer le rideau. Donc on va leur dédier cette émission et on est bien avec eux en tout cas par la pensée. Quel est votre goût de la semaine? La question rituelle, on commence par vous Charlotte.
Alors moi c'est une initiative spontanée de la restauratrice Frédéric Triquet et de la gastronome Anne Etor. Elles ont établi la liste des producteurs qu'elles aiment et qui fournissent d'habitude les chefs qui se retrouvent du coup, depuis le reconfinement, sans commande. Elles ont répertorié leurs offres, elles les proposeront à la commande aux particuliers et elles les distribueront elles-mêmes chaque jeudi à Asnières au restaurant Poulette, dans les Hauts-de-Seine. Si vous voulez commander leurs bons produits, vous laissez votre mail à petitmarchéproducteur@gmail.com et il y a tout.
Des belle poissons crèmeries.
Très belle initiative.
On prend. Merci Charlotte. Olivier, votre goût de la semaine.
Mais écoutez, au rayon des initiatives, en voilà une autre. C'est celle de Linky, qui est une petite start-up en Île-de-France qui se spécialise dans l'aide aux plus démunis, donc qui leur rapporte à manger. Ils se proposent de venir récupérer des stocks qui traîneraient encore dans les restaurants. Malheureusement, après la fermeture, il y a des restaurants. Il y a encore beaucoup de choses dans les frigos. Ils viennent les récupérer, ils les distribuent ensuite aux gens qui en ont le plus besoin. C'est sur le site Linky ou au 07 61 99 19 61 pour les contacter et on mettra les coordonnées sur notre site.
Absolument, europe1.fr. Eh bien, mon goût de la semaine, moi, c'est celui de la blanquette de veau de l'auberge Pyrénées Cévennes. C'est l'auberge de Pierre Négrevergne, juste derrière la place de la République à Paris. J'ai eu la chance d'y aller déjeuner cette semaine. Alors, on remonte dans le temps parce que c'est une auberge qui est figée vraiment dans le temps, presque au début du siècle dernier, si je puis dire. Et sa blanquette, je peux vous dire qu'elle est magnifique parce que la sauce est onctueuse comme il faut, avec les petits champignons de Paris, les oignons grelots. Bien entendu, comme tous les chefs cuisiniers, il ferme son restaurant, Pierre Négrevergne, mais il va continuer à proposer cette blanquette à emporter. Donc voilà, si vous voulez une belle blanquette ou la faire à la maison, faites-le. Hein,
je veux bien.
Cette saison. Allez, oh, vous entendez cette petite... musique voyageuse, c'est l'heure d'aller au marché, un marché exotique aujourd'hui, passage Brady dans le 10e arrondissement de Paris. C'est un passage dédié à la cuisine indienne. Alors rendez-vous dans une épicerie qui est là depuis 40 ans et Julien Amat vous a tendu le micro entre deux pincées d'épices.
Je viens d'acheter des samosas végétariens. Dès que j'ai l'occasion de passer par ici, je viens voir madame.
Les samosas, c'est pommes de terre, légumes macédoines. C'est enroulé dans un feuille de brique et frit en friture.
Ah oui, c'est très très bon.
Je viens d'acheter des épices pour du chai masala, du thé typiquement indien, de la cannelle et de l'anis vert.
Il y a de tout vraiment, raisins, amandes, noisettes, noix. Il faut que je vienne là pour trouver tout ce que je trouve pas d'habitude. Et voilà, c'est l'occasion. C'est vraiment la caverne d'Ali Baba, c'est super.
Ah, des pois cassés jaunes.
Vous avez tous les haricots rouges, blancs, de toutes les... Ah, il y a plein de lentilles.
Qu'est-ce que c'est,
lentilles? Des lentilles, regardez, j'en prends aussi des lentilles. J'ai rarement vu un choix comme ça quand même.
De la coriandre. Il y a aussi le curcuma, tous les épices au curcuma qui est très très bon pour la santé. C'est aussi une épice superbe. Je ne sais pas, c'est cette senteur qu'il y a partout dans le magasin. C'est fabuleux, on a envie de la manger même. Non mais c'est vrai.
Et même avec le masque.
Mais c'est vrai que ça fait du bien, ces senteurs, les épices. On est confinés, on ne peut pas voyager, profitons-en pour cuisiner indien.
Bah, voyageons dans l'assiette, les amis. C'est vrai que vous faites un beau colombo ou un curry de volaille ou de poisson, de tout ce que vous voulez. Fermez les yeux, mettez un peu de cette petite musique là, puis vous êtes ailleurs.
Évidemment. Et puis moi, l'automne, j'aime le faire des laits d'or. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est dans du lait végétal. Vous mettez un mélange d'épices vraiment très indien avec du curcuma, du gingembre et de la cannelle. C'est très très bon. C'est très bon pour la santé aussi.
Ah, puis ça réchauffe.
Ah, ça ouvre totalement le chakra.
C'est bien. Et si vous êtes parisien et que vous êtes confiné à Paris et que vous avez envie de vous faire livrer indien, il y a le restaurant Desiro de rue Dauphine qui est une très belle adresse de cuisine indienne qui livre justement ses plats à la maison. Et ben voilà, les amis, ne bougez pas. On vous emmène pêcher le rouget maintenant, Méditerranée. Ce sera juste après ça.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Alors, pour faire passer la pilule du reconfinement, comme l'activité physique, eh bien, la cuisine fait du bien au corps et à l'âme, les amis. Et quand on n'a pas la chance de respirer l'iode au bord de la mer, eh bien, on peut l'inviter dans son assiette avec une belle recette de poisson. C'est vrai, ne l'oublions pas, hein, chers auditeurs, les pêcheurs continuent de travailler.
Ouais.
Et puis, on a de beaux spécimens. Je ne parle pas de pêcheurs, mais de poissons.
De poissons en novembre. Et de crustacés. Et de pêcheurs aussi. C'est quand même la grande période de la Saint-Jacques, les amis. On s'en donne à cœur joie. Et elle est à des prix assez acceptable et assez raisonnable. Et puis un autre poisson qui est en pleine saison là pour le coup et pas cher, c'est le hareng. Alors, normalement il y a des fêtes traditionnelles à Dieppe, Boulogne pour le célébrer. Bon, cette année on ne pourra pas, mais célébrons-le dans l'assiette.
Absolument.
C'est délicieux.
Avec
bon
des
hareng.
Petites pommes de terre à l'huile tiède. Oh, c'est le bonheur ça. Allez, on va prendre la température en Méditerranée. Tiens maintenant, direction le Vieux-Port à Marseille. On vous emmène au cul du bateau comme si vous y étiez. Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 dans la région, a rencontré Guy Longobardo, l'un des derniers pêcheurs traditionnels marseillais. Alors, pêche au filet, Nathalie Chevance était là pour la débarque.
Et sans mal de mer.
Que vous avez ramené ce matin, Guy ?
Eh bien, aujourd'hui, des rougets, voilà, des rougets, des beaux rougets de roche. Et un peu de soupe, un peu de friture. Soupe de roche et un peu de friture.
Ils sont comment, les rougets, là, ce matin ?
Ben, vous les voyez, ils sont vivants, ils sont magnifiques.
Ceux-là, vous allez les vendre à quel prix, ce matin ?
25 euros le kilo, comme d'habitude. Moi, je préfère à la poêle. Maintenant, on peut les faire en papillote ou griller. Mais enfin, griller, moi, j'aime pas trop, c'est un peu sec. Le mieux, c'est à la poêle. Voilà. Moi, j'en farine. Huile chaude, un poil de sel. Et je débranche le téléphone et je coupe la sonnette. Pas être dérangé.
Madame, vous, c'est les rougets, hein ?
Oui, c'est les rougets.
Combien vous en voulez ?
J'en veux 8. Ah, ceux-là, ils sont frais. Moi, je les enfarine pas. Moi, je les nettoie, je les écaille et je les fais frire dans l'huile bien chaude. Avec un jus de citron.
Alors avec ces petits poissons là, ça c'est pour la soupe, c'est ça ?
C'est la soupe de roche, typique marseillais. On fait revenir le poisson, concentré de tomates, ail, on fait bien roussir, safran, puis on couvre d'eau, on fait cuire. Et 20 minutes, on passe tout à la moulinette.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre là en ce moment ? Là vous pêchez au large du Frioul, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, mais là, bon, ce matin c'était mauvais temps. En principe, il devrait y avoir quelques dorades. Ouais, les sols, mais bon, de moins en moins quoi.
Ah, les embruns, on y
Quel
est.
Métier.
Et Jean-Luc Arblade nous met des petits sons de mouette. Alors là, attention parce que ça peut faire partout. Oula. Les mouettes. Attention, hein, Jean-Luc, faut se méfier. C'est vrai que c'est bon le rouget, c'est délicieux.
Ah ouais.
C'est pas donné, hein, 25 euros le kilo, mais je trouve que ça fait vraiment partie des poissons qu'il faut avoir goûté au moins une fois dans sa vie. À l'heure de la standardisation des goûts, eh bien, je peux vous dire que le goût du rouget, hein, il est prononcé, il est puissant, il est iodé.
Vous savez quel est son surnom, le rouget ? On l'appelle la bécasse de la mer. Et c'est effectivement un poisson qui a beaucoup de caractère, qui a cette puissance de goût. Et dans l'association, par exemple, traditionnellement, le poisson, c'est plutôt le vin blanc. Eh bien, le rouget aime le vin rouge.
Alors, oui.
Son nom pourrait l'indiquer, mais en fait, c'est une chair, une structure et des goûts qui se régale.
C'est le gibier de la mer. Hein.
Voilà.
On peut le cuire entier avec son fouet, d'ailleurs.
Avec son foie, ouais. Ça donne beaucoup de goût. Et buvez un vin du sud, un vin rouge du sud, avec un peu de caractère, avec un peu d'épices, comme un bandol. C'est magnifique avec le rouge.
Oui, puis ça se changera de l'éternel cabillaud là, que tout le monde achète.
C'est vrai, oui, qui est menacé.
Qui est très bon, qui est menacé, mais qui est souvent en plus un peu gonflé à l'eau. Alors c'est un
souvenir de rouget dégusté chez un chef, peut-être, Charlotte.
Chez Bruno Verjus, je crois que vous connaissez aussi,
au
restaurant Table, à Paris, dans le 12e. Il le fait croustillant et entier, pané à la farine de riz et à l'hibiscus, figurez-vous.
Oh, dis donc, c'est beau ça, oui, c'est vrai que j'ai eu la chance de le goûter, c'est délicieux ce poisson. Alors, on parlait du rouget de Méditerranée, on le pêche aussi en Bretagne. À ne pas confondre avec le rouget grondin, qui lui est vendu aux alentours de 6 euros le kilo, bien meilleur marché, mais c'est pas du tout la même chair. Mais voilà, attention de ne pas confondre sur les étals. Et quand on n'habite pas sur les côtes, il y a des moyens de se faire livrer du poisson frais aussi,
Charlotte.
Ah oui, il y en a
beaucoup maintenant, il y a des réseaux de livraison très bien organisés qui proposent les produits de la mer frais, livrés n'importe où en 24 heures en général, ou 60 72 heures en région par ChronoFresh. Je peux vous en citer trois. Il y a Poiscaille, il y a les paniers de la petite Laura en direct des pêcheurs de Granville et Chauzet. Et puis vous avez une plateforme qui s'appelle Pour de Bon aussi.
On mettra les références sur europe1.fr. Et bien maintenant, c'est l'heure de répondre à vos questions, chers auditeurs. Et c'est Fanny Rascle qui a récolté les questions sur Facebook, le groupe des bons vivants ou alors au 39-21. Bonjour Fanny Rascle.
Bonjour Laurent, bonjour Fanny. À tous.
Bonjour. Merci d'être là. Alors on a des questions, la récolte est bonne ?
La récolte est excellente sur Facebook et au 39-21. Vous l'avez dit, cette semaine nous avons reçu ce message sur le répondeur. On écoute.
Bonjour les bons vivants, je suis Colette de Murolles et je vous appelle parce que je viens de faire une cueillette aux champignons et j'ai trouvé des girolles, quelques trompettes de la mort, 2-3 cèpes et j'allais rentrer pour cuisiner tout ça. Mais d'habitude je fais une poêlée et là je me demandais si vous aviez une autre recette pour cuisiner les champignons. Voilà, j'ai hâte d'entendre votre réponse, merci beaucoup et bonne émission.
Ah, la poêlée c'est bien, hein, mais on peut faire un risotto,
ah
Olivier
oui. Hein, ah oui, en récupérant l'eau des champignons d'ailleurs qu'ils rendent souvent un petit peu
oui,
dans la poêle.
Moi je les fais revenir après l'oignon, c'est-à-dire que je fais revenir l'oignon et l'ail dans l'huile d'olive dans la casserole, mm-hmm. et c'est là que j'ajoute les champignons et ensuite le vin blanc et ils vont cuire comme ça, ils vont parfumer effectivement notre risotto et on peut garder les pieds de champignons pour parfumer le bouillon. Donc vous voyez, voilà ce qu'on peut faire à part la poêlée, un beau risotto de champignons. C'est de la comfort food comme on dit, c'est ce dont on a besoin en ce moment.
Et puis surtout, les champignons, il y en a plein dans les bois en ce moment.
Alors, oui, c'est la bonne saison.
Si on, peut, si on arrive à sortir dans les temps impartis, mais
oui.
il faut y aller. Hein.
Bah c'est un achat alimentaire. Hein.
Oui, exactement. Gratuit, mais...
C'est les courses alimentaires.
Directement dans la forêt, mais ça marche. Une autre question sur le groupe Facebook des bons vivants cette fois, et j'avoue que j'ai la même interrogation. Ah. C'est Pierre qui nous demande pourquoi sa quiche Lorraine se dégonfle systématiquement quand il la sort du four.
Ah, il y a plusieurs raisons à ça.
Bah, c'est l'effet un peu soufflé, hein, c'est normal. Elle retombe toujours un tout petit peu. Ce qu'il faut faire, c'est la faire très dense et la faire un peu plus haute aussi. Pas hésiter à faire une quiche dans un plat qui est plus petit en diamètre, mais qui est plus haut en hauteur, et de mettre beaucoup de garniture.
Et autre truc aussi, c'est de cuire ce qu'on appelle la pâte à blanc.
Toujours,
c'est qu'on la cuit avant la garniture. Vous la mettez au four avec des haricots secs par-dessus, vous la faites 10 minutes au four à 180 degrés, elle va être pré-cuite, et comme ça, elle ne va pas souffler par-dessous, en tout cas.
Allez, je teste ça très vite.
Mais testez, Fanny, vous nous redites. On continue à poser des questions, bien sûr.
Oui, si vous en avez, c'est très simple. On attend vos messages sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes par minute, ou sur Facebook, le groupe des bons vivants d'Europe 1. Et puis pour affronter ce deuxième confinement, abonnez-vous à notre newsletter Cuisine pour avoir les recettes, les conseils de l'émission. C'est gratuit. Toutes les infos sur europe1.fr.
Et puis Fanny, ne bougez pas, on vous a adopté. On se retrouve dans un instant avec le journal de la cuisine. Et Jean-Luc Petit-Renaud va nous croquer l'automne, comme sur un tableau. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
J-3 avant les élections américaines. Alors les démocrates tiendraient-ils un meilleur coup de fourchette que les républicains? Ou bien le contraire? Eh bien on va regarder de plus près l'assiette des candidats à l'investiture avec Kathleen Clarity, une chef américaine qui va nous rejoindre dans un instant. Et puis on fera une belle sélection des classiques de la cuisine américaine parce qu'ils sont nombreux. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre journal de la cuisine, Fanny. Des idées pour rester solidaires avec nos producteurs et nos commerçants. Les cèpes sont énormes, dites donc, cette année. Et une nouvelle série sur TF1 autour de la gastronomie. Voici votre menu. Alors, le nouveau confinement annoncé mercredi est un coup de massue, hein, on l'a dit, pour les restaurateurs, mais il reste des solutions pour continuer à bien manger.
Et être solidaire avec nos producteurs, oui. Évidemment. Je pense pour commencer aux marchés qui restent ouverts, qu'ils soient en plein air ou couverts. C'est vraiment la grosse différence par rapport au premier confinement. Mais vous pouvez aussi vous tourner vers la vente à la ferme, tous les circuits courts, en livraison ou le système de drive. L'idée, comme au printemps dernier, c'est vraiment de privilégier au maximum les ressources qui sont autour de chez vous. Et puis du côté de l'industrie agroalimentaire, pas d'inquiétude non plus, les rayons seront approvisionnés. Oui. Le représentant de la Fédération du commerce l'a dit sur Europe 1 dans La France Bouge, il n'y a aucune raison de faire des réserves.
Oui, pas de stock. Et puis il y a du papier toilette pour tout le monde aussi. Alors pour les chanceux qui vivent près d'une forêt et qui pourront sortir, c'est la saison des cèpes. Et cette année, ils pèsent lourd, Fanny.
Alors globalement, la cueillette n'est pas très bonne. La faute à une météo très capricieuse. Mais les bolets sont souvent plus gros que la normale. Un spécimen d'1,8 kg à l'apte Haute-Loire, autre de 2,4 kg dans le Périgord blanc. Et tiens, puisqu'on a besoin de se réfugier un peu dans le fantastique, des ostréiculteurs de Carantec dans le Finistère ont ramassé il y a quelques jours une huître de 22 cm de long, un mollusque vivant, je précise.
On peut faire une belle tablée, là, dans les règles du confinement, mais on peut faire une belle tablée autour de l'huître.
On ne la gobe pas en une fois. Hein.
Non, on s'y reprend plusieurs fois. Et puis, une idée de série à regarder pendant le confinement, Fanny.
Oui, ça s'appelle « Ici, tout commence ». Et si je vous en parle, c'est parce que ça raconte la vie d'une école de gastronomie française. Les producteurs ont recréé une vraie cuisine, un vrai potager. Et on retrouve Francis Huster dans le rôle du directeur un peu colérique. Il a le droit exceptionnellement de porter le col tricolore des meilleurs ouvriers de France. C'est tous les jours à partir de 18h30 sur TF1.
Et oui, c'est vrai qu'il y a une belle ambiance dans les écoles de cuisine, d'effort, du goût, effectivement, du courage et du dépassement de soi. Merci Fanny Rascle.
Avec plaisir.
Et à bientôt.
Merci.
À la table des bons vivants.
Laurent Mariotte sur Europe 1.
Allez les amis, ça va nous faire du bien. C'est l'heure de retrouver notre poète du samedi, notre jongleur de mots, notre conteur des fourneaux. Ladies and gentlemen, this is Jean-Luc Petit-Renaud. Loin des mauvaises nouvelles, il nous invite à regarder, à sentir et à cuisiner l'automne. Bien le bonjour Jean-Luc.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Amis de l'automne, bien le bonjour. Alors vous savez, c'est formidable ce doux plaisir que l'on ressent d'une saison qui pousse du coude les recettes de la précédente. Alors on va dire comme ça en ce jour, adieu salade niçoise, petit farci et mozzarella de l'été, je ne rêve aujourd'hui que de perdre au rôti, à l'emberré de chou. Vous savez, le chou qui a compoté et qui est nourri du jus, du volatile, avec ce lard maigre. Je vois ce civet de lièvre qui glougloute sous le couvercle de la cocotte. À table, à table. Le faisan rôti, déglacé au verjus. J'ai même vu dans mes rêves les plus fous et dans les vignes mordorées, Olivier Pouls dans une chemise blanche, immaculée, jouant de la lyre et fredonnant une mélodie bachique à l'oreille des cuves en pleine fermentation. Je gobe l'automne, les enfants, je piaffe d'impatience au pied de l'hiver, jouez trompette et tambour, la vie est belle et légère. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle.
Mais il a raison, la vigne est tellement belle en cette saison, ça va encore durer quelques jours, les couleurs sont incroyables.
Merci l'ami Jean-Luc pour ce joli conte, pas de Noël, mais d'automne. Et c'était un banquet.
Mais c'est ouvert l'appétit. Hein.
Il a bien fait de le rappeler, c'est la saison des gibiers aussi, d'ailleurs.
Ça a commencé, oui. Les gibiers à plumes, un peu de poil.
La chasse, ça, on a le droit de chasser pendant le confinement ou pas?
Ah, bonne question, mais je pense à un kilomètre de chez soi et pas pendant plus d'une heure. Oui. Ça, on risque pas de ramener grand-chose.
Oui, c'est ça.
Pas beaucoup de prise, là.
À moins d'habiter en pleine forêt, quoi. Voilà, ça fait peut-être partie des courses alimentaires aussi, comme on le disait tout à l'heure, pour les cueillettes de champignons. En tout cas, nous sommes avec vous jusqu'à 12h30. C'est notre 100e et on a un beau cadeau pour vous tout à l'heure avec notre invité Johan Sfar qui va nous retrouver. On va se mettre autour du coulant au chocolat de Michel Brasse qui sera avec nous.
Le seul, l'unique, le vrai.
Oui, absolument. Longtemps imité, jamais égalé. Et Michel Brasse vous donnera à vous, chers auditeurs d'Europe 1, la recette exclusive. Allez, on revient juste après ça. Là, on va bien parler anglais et américain même avec notre invité, puisqu'on règle notre minuteur à l'heure des élections américaines. Elles ont lieu dans 3 jours. Avant de revenir sur les grands classiques de la cuisine de l'oncle Sam, on va s'intéresser aux assiettes des candidats républicains et démocrates, nos deux candidats. Et nous sommes avec la chef et auteure culinaire, Kathleen Clarity. Hi Kathleen.
Hello.
Welcome.
Oh, merci.
Ravi de vous recevoir à la table des bons vivants. Vous êtes déjà venu nous voir. Vous êtes auteur de la cuisine américaine familiale et authentique aux éditions Hachette, qui est une véritable bible. Hein, si vous aimez la cuisine américaine, je vous conseille vivement ce livre avec plus de 240 recettes. Vous avez aussi écrit la nouvelle cuisine californienne, toujours chez Hachette. Et puis vous donnez des cours en ligne également à l'atelier des chefs.
C'est exactement ça, bravo.
Vous continuez pendant le confinement les cours en ligne?
Je continue, je fais même des petites lives à la maison, enfin voilà, on s'occupe.
On va venir vous suivre. Alors Donald Trump, le républicain d'un côté, Joe Biden, le démocrate de l'autre. Au-delà des idées, est-ce qu'on peut dire que ce sont deux styles de cuisine qui s'opposent?
Oh oui, je pense. Hein. Oui, on peut le dire comme ça, oui.
Ils n'ont pas le même gabarit, d'ailleurs.
Déjà,
hein.
Oui.
Par exemple.
Alors, d'ailleurs, vous battez, justement, Kathleen Clarity, pour sortir de l'image du hamburger comme plat national. Ce n'est pas que ça, la cuisine de l'oncle Sam. Hein.
Ah non, mais c'est exactement ça, en fait. Vraiment, c'est mon cheval de bataille. C'est que oui, il y ait bel et bien une bonne cuisine familiale, régionale américaine, où on cuisine, on va au marché, on achète des produits. Et ce n'est pas que du fast-food. J'ai envie de dire que... Alors, comment dire ça gentiment? Donald Trump, il ne sert pas tellement ma mission.
Oui, ça c'est vrai. Non, mais vous pouvez le dire. Hein. C'est vrai qu'il y a 51 États aux États-Unis, certains au bord de l'eau, d'autres dans le désert, d'autres dans les montagnes. Donc, on a affaire à une cuisine et à un terroir très diversifié.
Oh, bah, extrêmement, extrêmement. Moi, en fait, on ne peut pas dire la cuisine américaine, on peut dire des cuisines américaines. C'est tellement... lié aux immigrés, aux locations, enfin, là où on se trouve dans le pays, qu'on soit au plein centre des plaines. Évidemment, la cuisine n'a rien à voir avec celle qu'on va trouver sur la côte ouest ou la côte est, qui va plutôt tourner vers la mer. Enfin, c'est très divers et varié.
Oui, il y a par exemple la tarte aux noix de pécan, ça c'est le sud, c'est la Louisiane.
C'est la Louisiane, hein, parce que c'est là où il y a des noix de pécan et effectivement toute la plantation et la culture des noix de pécan.
Et la soupe de riz sauvage du Minnesota, ça c'est au nord.
Ça c'est très bien, c'est là d'où je viens, donc c'est très bon choix, Laurent. Merci beaucoup. Oui, complètement, c'est les Indiens en fait, c'est les Amérindiens qui cultivaient les riz sauvages. Qu'est-ce que c'est bon le riz sauvage, j'adore ça, moi.
Alors dans 3 jours, les Américains votent, Kathleen. Quel est le profil culinaire des candidats? Comment vous les définiriez?
Alors, Trump vient de New York, mais de Queens, et Biden vient de l'État de Pennsylvanie. Donc, en fait, Trump, il va être plutôt très cuisine américaine, mais cette un peu mauvaise image de la cuisine américaine.
Il assume qu'il aime les burgers.
Ah ben, il assume complètement. Hein. Et il y a plusieurs raisons pour ça, je crois. En fait, d'abord, c'est 100% américain, donc même si c'est d'origine d'ailleurs, oui. On peut en parler. Et aussi, j'ai lu quelque chose, alors ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'en fait, il préfère les fast-foods parce qu'il se sent plus en sécurité au niveau sanitaire. Ils disent que ça va être plus propre.
Ah oui, parce qu'il aime bien l'eau de Javel en même temps, c'est pour ça, donc ça va avec. Donc, et Joe Biden, tiens, si Joe Biden devait être un plat, ce serait lequel?
Alors, Joe Biden était très longuement gouverneur du Delaware. Donc, Delaware, c'est sur la côte. Moi, je dirais plutôt vraiment quelque chose tourné vers les produits de la mer, comme des crab cakes, par exemple.
C'est ce que vous nous avez apporté, là.
Oui.
Expliquez comment on fait le crab cake, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ce week-end et les prochains jours aussi, c'est hyper facile à faire.
Bien sûr, c'est facile, là, on peut le faire avec autre chose que du crabe, mais si vous avez de la chance d'avoir un peu de crabe fraîche comme ça, vous allez juste le plonger dans un court bouillon, le dépiauter. On aura le temps hein, pendant le confinement de dépiauter la crabe.
Et comment? Vous avez raison. Oui, oui.
Donc, tant qu'à faire, on mélange ça avec un œuf, un petit peu de crackers en fait. Là-bas, aux États-Unis, on ne va pas prendre le mie de pain, on va prendre des crackers.
Ah, c'est bien. Oui, oui. Des petits biscuits apéritifs. Ouais.
Exactement. On va les écraser dedans, on va mettre un peu d'épices, dont le fameux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Hein.
Ah, le Old Bay.
Le Old Bay. Alors, c'est un mélange d'épices qui est typique de là-bas, qui vient du Maryland. Et en fait, c'est vraiment la base de tous les crustacés et les poissons là-bas. On l'utilise avec tout. Moi, j'ai mis un peu d'oignon, j'ai mis un tout petit peu de mayonnaise dedans. Hop, on fait comme des petits gâteaux, on les fait frire à la poêle.
Et ça, c'est, voilà, ça représente Joe Biden parce que vous dites il vient de là-bas et il est plus porté sur les produits de la mer.
Tout
c'est
à fait.
Croustille moelleux, c'est délicieux. Et puis il y a une petite sauce avec. J'adore la petite sauce qui vient avec. Qu'est-ce
alors,
que c'est?
Alors, c'est super simple. La sauce, c'est mayonnaise maison, merci. Et avec un peu de sriracha. Je ne sais pas si vous connaissez ça, cette sauce piquante.
Voilà, exactement. Ça donne un côté un peu épicé, ouais.
Et vous nous avez apporté des mini burgers. C'est magnifique. Alors, il en faut 12 pour Trump, mais nous, on est ravis. Hein.
Ouais, mais moi, j'en veux bien, hein, tiens.
Tiens.
Alors, il y a des mini-burgers, ce qu'on appelle des sliders. Alors, les sliders, parce
c'est
qu'ils
beau.
Glissent, en fait. C'est super rigolo. Hein. Ça vient d'une chaîne, une petite chaîne de burgers aux États-Unis qui s'appelle White Castle, donc Château Blanc.
Parce
que les bâtiments sont construits en forme de château.
D'accord.
Et en fait, c'est vraiment des tout petits burgers, en fait. C'est-à-dire, on peut en manger plein et ça glisse tout seul, on va dire.
Mais c'est plus facile à manger que le gros burger où ça dégouline un peu parfois
c'est
aussi.
C'est ça,
hein.
C'est exactement ça.
Mais c'est vrai que Trump, il avait fait, vous disiez tout à l'heure, il adorait ça, il avait fait carrément un banquet de Big Mac, hein, faut savoir, pour recevoir l'équipe gagnante universitaire de football américain en 2019.
Hein. Vous avez raison.
Il avait mis 300 hamburgers et des pizzas.
Parce qu'il y avait une grève et il avait voulu malgré tout manger des burgers.
Et oui, le shutdown du gouvernement, donc. Il a fait venir des burgers.
Allez, on continue de se mettre à table avec les classiques, cette fois-ci, de la cuisine américaine. De la cave à vin d'Eisenhower au potager des Obama, en passant par la French cuisine des Kennedy. Il y aura à boire et à manger. À tout de suite sur Europe 1 et merci d'être là. Et le podcast vous attend hein, si vous voulez vous faire plaisir pendant le confinement.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Non, la cuisine américaine ne s'arrête pas au burger. Il y a aussi le mac and cheese, la dinde et les cookies. Non, je plaisante, il y a plein de belles choses aussi, vous allez entendre. La chef Kathleen Clarity est avec nous pour décrypter les assiettes des présidents américains à travers le temps. Kathleen, tiens, le dîner d'investiture est une bonne manière en fait de voir quelle place les présidents élus accordent à la cuisine, non ? Si on remonte tiens, récemment avec Obama en 2008 et Trump en 2016, ça ressemblait à quoi ?
Tout à fait. En fait, c'est vraiment le moment pour montrer le savoir-faire culinaire. Là, par exemple, si on commence par Kennedy, que tout le monde a adoré. Alors, sa femme étant plutôt d'origine française, on avait la gloire de la cuisine française. Il y avait un chef français, d'ailleurs, à l'époque.
Mais il y a longtemps eu, je crois, un chef français à la Maison Blanche.
Ça a commencé avec les Kennedy,
René Vardon.
Voilà, tout à fait. Et donc, effectivement, de très beaux plats. On est vraiment pratiquement sur des aspics de homard. Enfin, on est vraiment sur à l'époque, le plus raffiné, en fait. C'était vraiment ça.
Et avant lui, il y a eu Thomas Jefferson, qui, lui, était là à l'époque, on va dire, de l'invention, enfin, de la démocratisation du mac and cheese. Ce fameux gratin réconfortant, là aussi, de la comfort food avec des macaronis, une béchamel, du cheddar, plein de bonnes choses, quoi.
Il aurait rapporté ça d'Italie, il me semble, parce que c'était un grand voyageur, hein, Thomas Jefferson. Donc, il avait rapporté ça d'Italie, à l'époque, avec du parmesan. Et après, un industriel américain s'est emparé de la chose.
Et
en rajoutant du cheddar, et on a tous mangé ça quand on était petits.
Vous avez raison, ça se vend effectivement près du rayon pâte, les préparations toutes faites. Faites-le vous-même avec du vrai cheddar, ce sera bien meilleur quand même.
S'il vous plaît.
Clinton, il se tenait comment à table ?
Alors, Clinton avait un bon coup de fourchette. Et je pense que Hillary, elle surveille un peu derrière pour être sûre d'avoir quelque chose un peu plus léger. Donc avec l'arrivée des Clinton, c'était exit les chefs français finalement, parce que elle estimait que c'était un peu lourd, il y avait un peu trop de crème, un peu trop de beurre, c'était la période du light. Mais c'était très bien parce qu'en fait, ils avaient instauré la cuisine américaine. C'est-à-dire, en fait, voilà, pour revenir un petit peu en arrière, il s'était fait conseiller par une femme extraordinaire qui s'appelle Alice Waters.
Ouais, j'allais en parler.
Voilà, dont j'en parle beaucoup dans mon livre.
Oui, on en parle souvent ici aussi, qui a développé effectivement les produits locaux, la cuisine authentique, le circuit court.
Farm to table, le producteur à l'assiette.
C'est ça,
voilà.
C'est...
Elle avait d'ailleurs appris ça en France et elle est revenue là-bas et elle a fait une sorte de révolution délicieuse pour le bien manger aux États-Unis, au pays du fast-food et de la production de masse.
Donc ça, c'était vraiment bien. Après les Clinton, est arrivé d'autres présidents et après arrive Obama. Alors là, pour le coup, on est plutôt sur un côté, j'ai envie de dire zapping un peu, parce qu'ils ont changé de chef plusieurs fois. Ils ont pris des chefs très médiatiques, qu'il n'y avait pas à l'époque en fait, dont un certain Mario Batali, qui est un chef italien new-yorkais qui était assez connu. Donc, il changeait. Chaque dîner d'État était un peu différent, il y avait un autre style, mais il n'en a pas fait beaucoup des dîners d'État, Obama.
Quel genre de plats on mangeait dans ces dîners d'État ?
Alors là, par exemple, ça allait être des gâteaux de différents types de fromages, de chèvres choisis dans un tel...
Mais on le voit très healthy, en fait, Obama, quand même.
Oui.
Il porte beau, on voit qu'il est en forme, même si on le voit faire la queue de temps en temps dans des fast-foods pour aller chercher des hamburgers pour ses enfants. On le voit plutôt healthy, lui, plutôt.
Je pense qu'il est très mince. Ouais.
D'ailleurs, ils ont ressuscité un petit peu le potager de la Maison-Blanche qui était resté inexploité. Et puis, Michelle Obama, elle a fait tout un programme pour le bien manger dans les écoles, contre l'obésité infantile, etc.
Tout
quand
à
même.
Fait. Voilà, donc effectivement, s'ils n'avaient pas une cuisine, un style de cuisine particulière, on pourrait dire juste que quasiment tous les fruits et légumes des menus venaient du potager.
Ah oui.
Donc enfin, ils avaient réussi à instaurer ça.
Reconnexion avec le produit brut aussi. Hein. Vous parliez effectivement des fromages, vous parliez des fruits, des légumes. On trouvait ces produits bruts à disposition sur les buffets aussi. C'était pas que des choses cuisinées, c'est ça que vous voulez dire ?
Exactement. Mais en fait, il y avait juste plusieurs styles. En fait. Il y avait pas le style, enfin, on va dire la ligne directrice, c'était plutôt les produits frais venant du potager.
Olivier vient de parler du côté healthy d'Obama, c'est-à-dire manger en se préoccupant de sa santé. On dit que les démocrates sont plus sensibles au mieux manger avec cette nourriture. C'est pas un peu caricatural ça, parce que c'est pas que l'apanage des démocrates quand même.
Non, ça dépend de chaque président et surtout des femmes des présidents en fait. On peut pas dire que ça appartient à tel parti politique. Ça dépend de la personne. Voilà,
oui, parce que Eisenhower, qui était un républicain, était un bon vivant aussi, Olivier.
Un bon vivant et un bon buveur aussi. je pense en plus qu'il avait, contrairement à Donald Trump, il avait une vraie passion pour les vins français. Et il avait rempli en partie la cave de la Maison-Blanche, deux grands crus français. Bon, on est dans les années 50, hein, donc peut-être que les vins américains à l'époque étaient un peu moins prestigieux que ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'un président américain ait envie de défendre les vins de Californie, et d'ailleurs, évidemment. Mais oui, Eisenhower était connu pour certaine culture des grands vins français.
Ouais. Qu'est-ce que vous allez cuisiner le 3 novembre alors, Kathleen Clarity ?
Oh là là, le 3 novembre, quelque chose un peu plutôt facile à grignoter devant la télévision, parce que je pense qu'on va rester toute la nuit devant à suivre ça de près.
Un exemple ?
Moi, ça va être plutôt... Tiens, je vais peut-être refaire des crab cakes, mais en les faisant avec d'autres types de poissons, plus finger food, plein de légumes rôtis, comme j'aime bien.
Oh oui, c'est bien ça. Oui, on peut mettre du maquereau aussi, par exemple, si on aime.
C'est
oui.
Super avec. Hein,
merci d'être venue, Kathleen Clarity. Et on vous retrouve dans vos livres, hein, La cuisine américaine familiale et authentique chez Hachette et La nouvelle cuisine californienne chez Hachette également. Merci, bye bye.
Merci beaucoup.
À la prochaine fois,
see you soon.
See you soon, voilà, je cherchais. Merci beaucoup, je ne savais plus. J'étais perdu.
Merci.
C'est la 100e et on va revenir avec un coulant au chocolat signé Michel Brasse dans un instant. Un joli gâteau d'anniversaire que vous pourrez refaire ce week-end ou la semaine prochaine. À tout de suite. Vous êtes sur Europe 1, il est bientôt midi et c'est l'heure d'accueillir notre invité. Auteur, dessinateur, réalisateur, c'est un véritable distributeur de bonheur, remarqué et aimé avec la bande dessinée Le Chat du Rabbin et la mise en scène La Vie de Gainsbourg au cinéma. Il vient d'adapter son petit vampire sur grand écran. Ce midi, il pose sa caméra et ses crayons pour attraper une fourchette. C'est Johan Sfar, notre invité. Bonjour Johan.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Ravi de vous accueillir et c'est vrai qu'on a envie de recevoir des gens comme vous en ce moment qui font du bien, qui nous permettent de nous évader grâce au cinéma, même si là, ils viennent de fermer. Mais on va y retourner parce que Petit Vampire était en train de bien démarrer sur les écrans. Et vous venez nous voir aussi avec votre dernière bande dessinée. On peut toujours se la procurer, ça marche. C'est Le Chat du Rabbin chez Poisson Pilote. Un homme prolifique, ce Johan Sfar. Vous êtes un artiste engagé, Johan. Nous sommes au studio Coluche ici. Un copain de Gainsbourg sur lequel vous avez réalisé un film. Je ne sais pas si vous avez vu en ce moment, il y a une photo de tous les deux qui circule sur Instagram. On les voit en train de lire un journal et ils se disent « Oh là là, quel bordel en bas
!» C'est vrai. Je ne sais pas si je suis engagé. Enfin, on est dans le réel, donc on raconte. Parfois, on bavarde trop. Parfois, et puis, parfois, quand ça rencontre de l'écho. Mais je ne me force pas à être politique. J'essaie d'être dans mes petites histoires. Et il y a des moments où ça rencontre le quotidien de tout le monde.
J'ai appris, par exemple, que ces derniers jours, avant qu'on sache que les librairies allaient fermer, vous avez fait le tour des librairies pour pouvoir aller dédicacer aux gens qui le souhaitaient votre album, par exemple.
J'ai fait des apparitions surprises. D'abord parce qu'il y a des gens chez qui je devais signer dans une semaine et les pauvres, je suis allé les voir. Mais il y a des gens, ça leur faisait peur parce que j'arrivais dans la librairie, dans le contexte actuel. Je dis « Bonjour, c'est Johan Sfar, je peux faire un... » Et les gens ont flippé, en fait. Donc, il fallait que le libraire dise « Non, c'est vraiment le dessinateur.
C'est
si
le
tu
vrai.
Veux, si tu veux, il va te faire un dessin, tout ça. »
Quelle belle initiative, c'est super.
Ben, j'ai vu surtout des gens qui comprenaient pas qu'on mette pas les livres dans les produits essentiels parce que il y a pas un seul lecteur qui était pas d'accord avec nous et on s'est fait un peu chaud au cœur pendant toute la journée.
Ça fait du bien. Quel est votre goût de la semaine, Johan Sfar ?
Cette semaine, alors des tartines de Saint-Félicien avec de la confiture de cerise.
Oh, bel accord.
Bah parce qu'il y en a à la maison et ma femme est partie pour le week-end justement de la Toussaint et elle a laissé ça dans le frigo et voilà, je me fais ça.
Mais ça ressemble à l'accord du brebis basque par exemple avec la confiture de cerise noire, hein. Vous êtes dans le vrai là. Hein.
Voilà, moi je l'ai fait avec ce qu'il y avait dans le frigo, oui, mais ça se passe très très bien.
Mais il ne faut pas gâcher, justement, c'est à ça qu'on reconnaît quelqu'un qui aime cuisiner, qui aime manger, c'est quand on sait accorder les restes du frigo aussi.
Voilà.
Hein. Alors, on va maintenant parler de la situation de nos amis restaurateurs. Johan Sfar, vous aimez aller au restaurant, j'imagine.
Bah oui.
Comme tout le monde. Alors, on en a parlé dans le journal de la cuisine, hein, les patrons de bars, les restaurateurs ont dû fermer depuis jeudi soir. Même s'ils sont nombreux à s'adapter à la situation, elle est critique pour beaucoup, hein, Charlotte. On va déjà prendre la température du moral des troupes. Il
Faut bien constater quand même que les chefs sont un peu à cran, hein, même s'ils sont conscients de la nécessité de protéger la population. Ils n'en reviennent quand même pas de la brutalité de cette fermeture qui survient à nouveau, comme pour le premier confinement, du jour au lendemain. Donc ils se demandent un peu pourquoi ils ont dû s'adapter pendant des semaines à des nouvelles normes sanitaires toujours plus exigeantes, puis à un couvre-feu pour au final aboutir à une fermeture totale.
Oui, il y a un collectif qui regroupe des chefs sur tout le territoire. Mathieu Vianney à Lyon, Gérald de Passeda à Marseille, Michel Saran à Toulouse. Ils ont écrit une lettre au président d'ailleurs ces derniers jours.
Oui, elle est restée sans réponse pour le moment, mais les chefs ont pourtant du coup décidé de ne plus parler que d'une seule voix et de se ranger derrière leur syndicat. L'UMI par exemple que j'ai appelé annonce qu'il y a quand même déjà entre 100 et
150 000 emplois qui ont d'ores et déjà été perdus dans la restauration et l'hôtellerie depuis le début de la pandémie. Alors la profession réclame que le plan d'aide annoncé par le chef de l'État soit appliqué très rapidement. Ils attendent des baisses de loyers, le chômage partiel pour les gérants des établissements et puis que les assureurs compensent les pertes d'exploitation.
Alors on peut les aider, c'est ça la bonne nouvelle.
Ouais.
En commandant toujours auprès de nos restaurants, il y en a beaucoup qui continuent les livraisons. Il y a plein de nouvelles façons aussi de les aider.
Exactement, oui, il y a de nombreux restaurants qui ont déjà établi des cartes spéciales depuis le premier confinement. Si vous n'avez pas le temps parfois de cuisiner, n'hésitez pas à vous renseigner. Il existe aussi de nouvelles initiatives comme le nouveau service de livraison de pâtes fraîches faites maison. C'est en région parisienne, ça s'appelle Darocco Pastificio. C'est en livraison surtout à Paris pour le moment, mais ça risque de s'élargir. À noter aussi, si vous voulez privilégier la livraison éthique et l'alimentation durable, vous avez la plateforme alternative et responsable Resto.Paris, créée par Ecotable, qui regroupe plein de restaurateurs pour manger sain et durable. Et enfin, certains restos qui se transforment en marché de producteurs pour soutenir leurs fournisseurs. Et par exemple, vous avez Olivier Nasty, en Alsace, au Chambard, qui organise même un marché gastronomique. Donc renseignez-vous, il y a des initiatives un peu partout pour les soutenir.
Il faut vider les frigos aussi, comme le fait Johan Svar quand il se retrouve tout seul à la maison. Vous allez les soutenir en commandant des livraisons à domicile, par exemple ?
Oui, et informez-nous sur toutes les manières de le faire, parce que moi, bêtement, c'est Deliveroo, mais est-ce qu'il y a moyen de se connecter directement à un restaurant ? Est-ce qu'on est assez informatisé pour être... Moi, je ne connais pas ça.
Une des bonnes solutions, c'est d'aller voir déjà sur leurs réseaux sociaux, parfois ils servent.
Oui,
dans le positif. Et ils annoncent où ils mettent des click and collect, ils peuvent annoncer leur menu du jour, où et quand on peut les récupérer.
C'est ça, on commande directement auprès d'eux et on va chercher directement auprès du restaurant.
Il y a un sujet aussi là-dessus, on le touche du doigt avec la librairie, c'est que les gens sont beaucoup moins informatisés qu'on se le raconte. C'est-à-dire le click and collect qui a l'air d'être une évidence pour nous, ça ne l'est pas pour une grande partie de la population. Et s'il y a des solutions alternatives et plus directes de voir son restaurateur et de commander directement, il faut peut-être les privilégier.
Et le bon vieux coup de téléphone marche toujours.
Absolument,
parce que de nombreux, ça il faut le dire, effectivement, vous avez raison, Johan Svar, de nombreux restaurants restent ouverts uniquement pour la livraison. Alors, ils n'ont plus le droit de recevoir du personnel, mais ils peuvent vendre à emporter ou ils peuvent livrer également.
Oui, et surtout les petits restaurateurs de quartier, parce qu'on parle souvent des grosses structures, des chefs déjà médiatisés, mais les petits restaurateurs de quartier, c'est ceux qui souffrent le plus actuellement. Donc, passez un coup de fil, allez voir devant l'aventure pendant votre heure de sortie autorisée, et puis commandez chez eux.
Tous au resto à la maison, quoi, en gros. C'est un petit peu ça. Merci, Charlotte. Johan Svar, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi. Votre chat du rabbin n'est pas loin. Un titre prémonitoire. Dites donc, rentrez chez vous. Alors, c'est pas dans ce sens-là que vous le dites, mais ça s'appelle Rentrez chez vous, le dernier album. On en parlera tout à l'heure. Et on va se retrouver aussi dans un instant autour du coulant au chocolat de Michel Brasse. Ça vous parle, ça, le coulant au chocolat ?
Ah, j'en salive déjà.
Le grand chef Michel Brasse sera avec nous juste après les titres du journal de François Claus. A tout de suite. Vous écoutez Europe 1, il est midi. Les titres d'Europe Midi, François Claus. Bonjour François.
Bonjour Laurent, bonjour à toutes, bonjour à tous. À la une du journal, dans une demi-heure, la fronde des commerçants anti-confinement qui monte en ce moment même dans tout le pays. De plus en plus de communes adoptent des arrêtés municipaux au nom du principe d'égalité pour permettre la réouverture des commerces de centre-ville ou de proximité dans leur commune, face aux grandes surfaces. Nous serons dans le journal en reportage dans l'une de ces communes, à Hyères, dans le département de l'Essonne. L'Association des maires de France soutient ces démarches qui préfigurent dans les prochaines heures un bras de fer juridique avec les préfectures, mais aussi peut-être localement quelques tensions avec les forces de l'ordre chargées de faire appliquer les règles du confinement sur le terrain. C'est au nom de ce principe d'égalité, d'ailleurs, que le ministère de l'Économie a répondu hier à la colère des libraires en annonçant que les grandes surfaces, notamment la FNAC, qui restent ouvertes pendant le confinement, n'auront pas le droit de vendre des livres. Double punition pour ceux qui voulaient des livres, il n'y en a plus dans les librairies et plus dans les grandes surfaces. Cela pourrait pousser les gens à acheter sur les fameuses plateformes que nous ne citerons pas de e-commerce, qui se sont considérablement enrichies déjà pendant le premier confinement. Consciente de ce problème, Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée en charge de l'industrie qui était l'invitée de Pierre de Villeneuve ce matin sur Europe 1, a exigé de ces plateformes de renoncer à leurs agressives campagnes de promotion à quelques jours du Black Friday. Nous entendrons la ministre dans le journal qui recevait notamment les représentants, et on va la citer, de la plateforme Amazon. Nous ferons le point également sur l'enquête qui progresse pas à pas après l'attentat de Nice. Trois personnes sont désormais en garde à vue. Justin Morin du service police-justice d'Europe 1 nous éclairera sur les profils des personnes interrogées, des enquêteurs qui tentent de déterminer d'éventuelles complicités, tout en comblant les zones d'ombre de l'emploi du temps du tueur entre son arrivée en Europe, via l'Italie à la fin du mois de septembre, et son passage à l'acte 5 semaines plus tard dans la basilique Notre-Dame de Nice. Le géopolitologue Frédéric Ancel sera notre invité pour décrypter le contexte géopolitique du moment avec un front de plus en plus large anti-France dans les pays musulmans. Nous évoquerons bien sûr l'actualité sportive ce week-end, cet alléchant France-Irlande à 21h en clôture décalée du tournoi des Six Nations. Sans oublier bien sûr une météo automnale qui nous offre un peu de soleil en ces temps de déprime collective. Restez bien à l'écoute d'ailleurs, car nous recevrons dans la dernière partie du journal la psychothérapeute Hélène Romano qui nous distillera quelques conseils pour mieux supporter le climat du moment entre enfermement et anxiété. À quelques heures de la rentrée scolaire, on s'attend à des retours massifs sur les routes de France après 2 semaines de vacances. Nous allons faire le point sur les conditions de circulation dans un instant.
Le radioguidage sur Europe 1 avec les opticiens Atoll pour être sûr de bien voir aussi la nuit au volant.
Alors on s'attendait aujourd'hui à des retours anticipés sur les routes de France. On s'attendait également peut-être à des départs vers des confinements à la campagne. Eh bien, que nenni. Pour le moment, c'est une situation totalement verte sur le territoire. On enregistre 1 kilomètre seulement de bouchons, mais on va rester attentif à ces conditions de circulation qui pourraient s'aggraver dans la soirée. À dans une demi-heure maintenant pour le journal. Je vous donne rendez-vous également à 13h pour le magazine de reportage Tout Terrain. L'antenne se poursuit sur Europe 1 et on va retrouver bien sûr l'ami Laurent Mariotte.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le vrai camembert, c'est AOP au lait cru de Normandie.
Sur ce côté chlorophylle.
Et il est beau ce veau. Il a fière allure, il a le béret sur la tête.
Europe 1, 11h, 12h30.
Un petit trait d'huile d'olive, sel, poivre. Ça, c'est délicieux aussi.
La table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Mais oui, tout est délicieux. Soyez les bienvenus. Si vous venez d'arriver, nous sommes ensemble bien dans notre assiette jusqu'à 12h30. Nous avons pêché le rouget au large de Marseille. Nous avons cuisiné les grands classiques américains. Il n'y avait pas que du burger. Et nous revoilà avec notre invité, l'auteur et réalisateur Johan Sfar, qui vient nous voir avec son Chat du Rabbin, épisode numéro 10, Rentrez chez vous, paru aux éditions Poisson Pilote, le petit vampire adapté au grand écran qu'on retrouvera bientôt. Johan Sfar, votre grand-mère a beaucoup compté pour vous. Vous dites d'elle d'ailleurs que c'était le Marlon Brando de la famille, c'est ça ?
Ouais, elle avait un grand pouvoir sur la famille, y compris un pouvoir politique, c'est-à-dire elle pouvait exclure ou inclure les gens.
Ah, le parrain.
Et, voilà. Et une de ses armes, c'était la cuisine. Donc elle faisait de la cuisine algérienne, mais elle pensait que c'était de la grande cuisine parisienne. C'était délicieux. Mais quand elle donnait les recettes à ses filles, elle oubliait toujours un ingrédient pour que ça reste meilleur chez elle.
Elle le faisait exprès, en fait.
Bah, évidemment. Ouais. Et moi, j'ai été son assistant pendant des années et j'ai rien retenu. J'étais là comme un débile. Elle me disait tout. J'ai connu tous ses secrets et je savais juste les bouffer.
Qu'est-ce qu'elle vous faisait alors ?
Plein de choses très compliquées, toutes sortes de couscous de toutes sortes de régions, du homard à l'armoricaine parce qu'elle a décidé que le homard c'était cachère parce que c'était bon, des pizzas, figurez-vous. Elle faisait des confitures de toutes sortes de choses, des confitures de pastèques, des confitures de... Elle faisait des coins, des poulets au coin. Elle faisait, j'en reviens pas, des milliards de trucs. C'était super bon.
Si je vous dis le coulant au chocolat, est-ce que ça évoque quelque chose pour vous, Johan Sfar ?
Mais moi, je pensais que c'était un duel parisien entre tous les restos, à savoir qui allait le louper le mieux. Et vous venez de m'apprendre qu'il y a eu un créateur de cette merveille, alors ça, je veux tout savoir.
Eh bien, nous l'avons au téléphone, absolument, le créateur de cette merveille. C'est le grand chef cuisinier Michel Brasse, qui est dans son domaine de l'aïeul, je suppose. Bonjour Michel Brasse.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Oui, je suis bien à l'aïeul, oui,
ah,
tout à fait.
Voilà. Alors, on va parler de ce dessert quand même qui est mythique, le coulant au chocolat, longtemps imité, je le disais, jamais égalé. Comment il est né ce gâteau au chocolat avec ce côté biscuit autour et ce coulant à l'intérieur quand on le casse qui nous donne l'impression de déguster un chocolat chaud presque ?
Alors, il est né d'abord, c'est un dessert d'émotion. Alors, il faut savoir que j'avais une fascination pour le chocolat exacerbée. Vous imaginez, bon, c'est dans les années 80, je fais une promenade dans ce paysage d'Aubrac qui est avec un hiver comme il se devait à l'époque, avec la neige qui tombe à l'horizontale. On revient de faire une balade en ski avec mes enfants, avec mes deux garçons. Donc la maman fait le chocolat à l'ancienne, cuit à la casserole avec le grain de sel et puis elle le verse dans les bols et les enfants glissent les mains contre le bol pour se réchauffer le corps et le cœur. Et à un moment donné, bon, les langues se délient. Hey, t'as vu papa là-bas dans la côte, moi je t'ai lâché. Enfin, il y a une convivialité, une fraternité qui se passe autour de la table qui est phénoménale. Et je voulais traduire ça autour d'un biscuit, c'est-à-dire avoir un biscuit qui ouvre au partage, d'abord qui soit une surprise et qui ouvre au partage et qui ouvre à cette humanité qui peut se transmettre autour de la table.
Ah bah c'est réussi.
Donc,
hein.
C'est réussi, oui, ah oui, mais ça m'a demandé quand même 2 ans de mise au point parce
deux
que j'avais pas trouvé
ouais,
l'astuce technique pour faire en sorte que ça ne soit pas un mi-cuit comme on trouve dans tous les restaurants, mais que ce soit une véritable ganache au chocolat qui coule, odorante, et qui crée cet effet de surprise autour de la table.
Sans rentrer dans les détails, mais c'est quoi les grandes étapes pour le réussir, et même si nos auditeurs veulent le refaire ?
On a un biscuit à l'extérieur qui englobe, qui enveloppe une ganache. Alors la ganache, c'est du beurre, de la crème et du chocolat. Et donc, l'idée que j'avais trouvée, c'était de pouvoir surgeler cette partie de ganache et l'incorporer à l'intérieur du biscuit. Comme ça, après, quand l'ensemble cuit, le biscuit a eu le temps de cuire et la ganache a eu le temps juste de fondre à souhait.
Choc
et quand
thermique.
On l'ouvre, donc, il y a plein d'odeurs qui se vont voir.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir vu ce dessert copié dans le monde entier, pratiquement ? Au début, j'imagine que ça doit déplaire, non, quand même ?
Déplaire ? Non. Bon, or, ce que je peux regretter, si j'avais touché un centime par coulant, c'est pas... je serais multimillionnaire.
Ah, bah là, oui. Alors là...
Non. Ça, c'est pour la plaisanterie. Non, mais vous savez, bon, j'ai mis 2 ans pour le mettre au point. Au début, je devais en cuire 2, 3 pour en avoir un qui corresponde vraiment à l'idée que je me faisais, c'est-à-dire avoir cette enveloppe que lorsqu'on ouvre, la ganache fluide s'évanouit, enfin, s'épanche sur l'assiette. Mais personne ne pourra s'accaparer un jour le bonheur qui a été le mien le jour, le premier coulant, je l'ai réussi.
Mais j'imagine.
Alors, toutes les imitations de part et d'autre, ben, je les leur laisse. Mon cœur reste avec cette première surprise quand je l'ai réussi la première fois.
Alors, vous avez la gentillesse de nous livrer la recette qu'on va mettre sur europe1.fr, la recette originale et originelle de Michel Brasse pour que Johan Soir puisse la refaire ce week-end, par exemple. Hein, ça fait envie, hein, Johan, hein.
Moi, je vais le donner à ma femme, surtout, qui va le faire, parce que je ne sais rien faire, mais elle est très forte.
Donc, vous savez manger, comme vous dites.
Ah oui, je sais manger.
Et on pourra le déguster bientôt dans une nouvelle adresse parisienne. Je ne trahis pas de secret, hein, Michel Brasse,
oui,
racontez-nous.
Pardon. Oui, disons que bon, on a été pressenti avec mon fils Sébastien à tenir la Lohgren à Paris, c'est-à-dire le musée d'art contemporain que va ouvrir Monsieur Pinault. Et donc, dans le cadre de ce restaurant, on va le retrouver, oui.
Au Hall de Paris. Eh bien, merci beaucoup, Michel Brasse, pour cette belle confidence autour de ce dessert qui est vraiment le dessert du moment qui fait du bien, comme vous dites, au cœur et à l'âme. Et bon week-end à vous dans votre bel Aubrac.
Merci à vous. Bonne journée.
Merci Michel Brasse. Et on retrouvera la recette évidemment sur europe1.fr. Il en parle bien hein, de son moelleux au chocolat. On dit moelleux d'ailleurs. Non, c'est coulant au chocolat. Hein. C'est comme ça qu'il faut dire maintenant.
Il faut le manger chez lui surtout. Hein.
Vous l'avez mangé chez lui ?
Ouais, je l'ai mangé chez lui. Ça n'a rien à voir avec tous les autres.
Quelle chance. Voilà, c'était notre cadeau pour vous, chers auditeurs, pour la 100e. Allez, on continue de se faire plaisir. Et on revient avec une belle sélection de vins avec vous, Olivier. Et puis on va découvrir Johan Soir aussi côté goulot. A tout de suite.
Europe 1. La table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Vous le savez, hein, votre ronde serviette vous attend tous les samedis de 11h à 12h30 sur Europe 1 et on va déboucher de belles bouteilles avec Olivier Pouls et avec notre invité Johan Soir qui est venu nous voir avec son chat du rabbin, le numéro 10, Rentrez chez vous. Alors oui, je disais que c'était un titre prémonitoire pour le confinement, mais c'est pas Rentrez chez vous dans ce sens-là. Hein. Ça commence d'ailleurs au début de la bande dessinée où quelqu'un a une vraie insulte antisémite.
Bah ouais, c'est des juifs qui passent 100 ans à essayer d'aller en Israël et puis finalement ils se retrouvent tous en France. C'est l'histoire de juifs qui se font traiter de sales juifs, ils vont en Israël et là-bas ils se font traiter de sales arabes. Alors,
et c'est la première fois que le chat du rabbin va en Israël d'ailleurs. Hein.
Ouais, et c'est marrant parce que je voulais traiter du Proche-Orient et mon éditeur m'a dit mais en fait tu racontes des destins français. Et c'est exactement ça, j'ai raconté sur 100 ans le fantasme de la terre promise qui se traduit dans la réalité par des destins absurdes. Et puis on finit là où on peut. Dans le cadre de ma famille, ça a été en France.
Oui, ça fait du bien de se plonger dans cette bande dessinée en ce moment, Johan Soir. Quel genre de cuisine vous aimez manger à la maison ?
Alors moi, je suis un danger parce que j'aime tout. Et ma femme est une grande cuisinière. Elle a vendu des desserts à de grands hôtels parisiens. C'est vraiment son métier. Et dans sa famille, ils sont tous ou dans le vin ou dans la bouffe. Donc, c'est des Alsaciens. Donc, ils rigolent pas avec ça.
On rigole pas avec ça.
Et par rapport à moi, ils sont un peu aristos. C'est-à-dire qu'ils aiment les vins naturels, ils aiment les trucs. Bon, moi, je suis Côte-du-Rhône. Voilà. Et j'essaie de survivre au milieu de ces intellectuels de la nourriture. Et c'est la honte parce que je sais rien faire. Mais j'aime bien en même temps.
Oui, mais vous aimez manger.
Ah oui, ça, on ne peut pas m'enlever ça. Non.
Donc là, vous parlez de jolis restaurants que vous faites en famille. On est loin des chicken wings que vous mangiez devant l'ordi quand vous étiez étudiant, alors.
Il y a ça. Mais même sur le fast-food, ils ont des espèces d'exigences. Ils aiment des trucs particuliers, ils aiment, c'est toujours un peu exigeant, c'est toujours machin. Quoique le fast-food aujourd'hui, ça devient de plus en plus asiatique, c'est-à-dire qu'on commence à vraiment aimer la bouffe coréenne, la bouffe chinoise, la bouffe japonaise. C'est difficile de revenir au hamburger, peut-être.
Et côté vin, alors vous dites que vous aimez le Côte-du-Rhône, mais vous avez des préférences ?
Non, moi je suis très vin simple. Je vous dis, j'aime même les rosés corses. C'est pour vous dire si je suis resté simple.
Il y a des bons rosés corses, bien sûr.
Mais autour de moi, tout le monde milite pour le vin naturel. Donc ça me fatigue énormément. Au bout d'un moment, j'ai envie de faire de l'anti-jeu. Le sulfate me manque. Sulfite, oui, comme on dit.
Mais on peut comprendre. Surtout que les vins nature, il y en a de très jolis, mais c'est un peu la loterie parfois. Hein. Il y a ce côté crottin de cheval qu'on peut sentir parfois. Même si de nombreux vignerons progressent sur les vins nature. Et il faut leur avouer une chose quand même. C'est la digestibilité. Ils sont plus digestes. Alors le danger, comme dit Yves Candebord, c'est qu'on en boit plus. Quoi.
Donc... C'est vrai, on est mieux le lendemain.
C'est
donc
ça.
On peut reboire tout de suite.
Olivier Pouls, c'est notre centième. Donc pour la centième, pour nos auditeurs, vous avez fait une belle sélection de vins de copains et qu'on pourra boire Johann Svar aussi.
Bah oui, pas un, pas deux, mais trois vins pour fêter les 100 émissions. Et puis trois vins dans l'esprit de l'émission. Les bons vivants, trois vins de bons vivants à mettre autour de la table. Alors en ce moment, c'est peut-être un peu compliqué, mais peut-être à échanger lors d'apéritifs virtuels.
Un petit comité familial, on peut toujours manger avec sa famille quand même à la maison.
Ou un petit comité. Trois vins de trois vignobles et trois bons glouglous, comme on dit. Moi, j'aime bien cette expression, parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Alors le premier.
Et je vous propose de commencer par un petit coup de blanc pour se rincer les amygdales avant d'attaquer le sérieux. Et avec un vin très original, puisqu'il s'agit d'un vin de Bourgogne, mais vous savez, le vin blanc de Bourgogne, habituellement, c'est du Chardonnay. Mais là, c'est un très vieux cépage qu'on ne retrouve pratiquement plus en Bourgogne. C'est du Pinot Beuro qui donne naissance à des vins blancs. Ça, c'est fait dans la région de Chablis. C'est le pommier qui produit ça. C'est un vin tout à fait accessible. On est aux alentours de 13 euros. Ça s'appelle grain de survie. Vous voyez ce côté très fruité.
Très ample aussi.
Ah oui. Il y a de la richesse, il y a du gras. On n'a pas, pas la minéralité qu'on trouve habituellement dans les vins de Chablis, parfois un petit peu austère quand ils sont jeunes. On a un côté plus enrobé, un peu plus gras, un peu plus riche.
Johan,
c'est facile à boire. Alors
c'est
ça me
très
plaît
facile
beaucoup
à boire.
Moi, j'aime pas avoir besoin d'être intelligent pour boire. Et ça se boit même si on est bête comme moi.
C'est très intéressant ce que vous dites. Parce qu'on n'a pas besoin d'intellectualiser le vin. C'est du ressenti, c'est du sentiment.
Bah, bien évidemment.
Le deuxième,
je vous emmène à Bordeaux parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à associer Bordeaux à des vins hors de prix, très prétentieux, les grands châteaux, etc. Et là, on est dans un vin bio pour démontrer que Bordeaux aussi fait des vins bio. On est dans un vin, c'est 2018, c'est un vin jeune mais qui est déjà accessible, ça s'appelle La Jolie. Et c'est un des 12 vins qui a été récompensé par les Talents de Bordeaux, qui est un concours annuel qui met en avant des vins très accessible sur l'appellation Bordeaux et Bordeaux Sup. Là, on est sur un vin qui coûte pareil, autour de 13-14 euros.
Ah, joli.
C'est du fruit, c'est juteux, c'est à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer des Bordeaux un peu prétentieux qui mettent parfois 20 ou 25 ans avant d'être buvables.
Et là, c'est tannique. Hein,
et ben là, il y a un peu de tannin, bien évidemment. Ouais. C'est Merlot, Cabernet Sauvignon, on a de la structure.
Ah ouais, c'est excellent. Après un infarctus, c'est ça qu'il faut voir. Mon grand-père était médecin. Après chaque infarctus, il prenait du Bordeaux.
C'est magnifique.
Ah, il était médecin, il se le recommandait lui-même.
Mais c'est les polyphénols, on en parle.
Ça doit être les polys.
On sait très bien que ça débouche les artères.
Un dernier pour la route.
Allez, un dernier pour la route. Allez, hop, je vous fais passer ça. Et là, Johan Svar, c'est pour vous, puisque c'est un Côte-du-Rhône et je sais que vous aimez ça.
Ah, mais j'en ai pas.
La bouteille,
pardon.
Ça vient.
Je rigole pas, moi.
Ça s'appelle Rhône par Sabon. C'est un grand domaine de Châteauneuf-du-Pape et c'est sa petite cuvée. Donc, ce sont des vignes qui ne sont pas sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape, qui sont en simple appellation, si on peut dire, Côte-du-Rhône. C'est un vin, là aussi, à moins de 10 euros, 9,90. Et c'est ce que j'aime dans les vins du Rhône. C'est de l'évidence, c'est du fruit. Ça éclate, c'est généreux. C'est un vin pour la centième et pour la table de bon vivant.
Merci Olivier, on mettra les références sur europe1.fr.
Mais là je vais être cruel parce que c'est un vin qui donne envie d'aller au restaurant et d'avoir un petit onglet ou quelque chose comme ça.
On se fait livrer.
C'est un vin de restaurant,
ouais,
ça.
Ouais, on se fait livrer. Vous emporterez la bouteille.
Et vous connaissez les Gros Lolos ou pas? C'est un joli vin blanc de Loire aussi, moi, que j'ai bu hier et que je vous conseille. On mettra les références.
Je veux bien les couvrir.
Les jolis Gros Lolos, un joli blanc de Loire. Et c'est pas une blague. On vous mettra les références sur europe1.fr. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec le grill des bons vivants. On va découvrir les coups de fourchette de notre invité bon vivant, Johann Svar. À tout de suite.
On passe à table sur Europe 1.
Laurent Mariotte.
Et oui, le temps passe vite à table. C'est déjà la dernière partie de l'émission en compagnie de l'auteur, dessinateur, scénariste, réalisateur et romancier Johan Sfar. Vous savez tout faire, hein ?
Non, je raconte des histoires avec des dessins. Après, on move divers sports, j'y vais, quoi.
Alors, une belle histoire qui était interrompue en ce moment sur les grands écrans, c'est Petit Vampire, adapté de votre bande dessinée. Je l'ai vu hier soir, ça fait du bien, votre Petit Vampire.
Bah ouais, c'est un peu un petit Nicolas avec des monstres, c'est pour les enfants et pour les parents. J'ai pas de bol parce que j'ai jamais eu un aussi beau démarrage pour un film.
Mais il va revenir.
Mais je sais pas ce que ça va devenir. Oui, j'imagine qu'il sera en salle quand ça réouvrira.
Mais bien sûr, il va revenir.
Mais j'en sais rien du tout.
Alors, le Petit Vampire était encore au cinéma cette semaine, Johan Sfar, et nous avons une jeune auditrice qui est allée le voir à la dernière séance, figurez-vous, le Petit Vampire. Elle a une question à vous poser, c'est la belle Eugénie. Vas-y Eugénie.
Bonjour Johan, je m'appelle Eugénie, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi le Petit Vampire boit du chocolat chaud au lieu que du sang. Merci de répondre à ma question. Au revoir.
Merci Eugénie.
Adorable. C'est vrai qu'on le voit jamais mordre des gens, ce Petit Vampire, parce que c'est pas le sujet en fait. Le sujet, c'est qu'il y a un petit garçon dont les parents sont morts et l'autre dont les parents sont morts vivants. Et il y a une scène où je les montre tous les deux en train de déguster un chocolat. Et la phrase, c'est « Les monstres aussi aiment le chocolat ».
Voilà. Oui, parce que c'est un petit vampire très gentil avec son copain Michel.
Bah oui, ils ont peur du vrai monde en fait. C'est l'histoire d'enfants surprotégés qui vont apprendre à découvrir le vrai monde.
Pour sortir de leur bulle, qui est une vraie bulle en plus. C'est une bulle magique dans ce petit vampire. Vous nous avez parlé de votre femme qui cuisine très bien tout à l'heure, Johan Sfar. C'est vrai, cette légende, on raconte que vous êtes tombé amoureux de votre femme en la voyant masser un poulet.
Oui, mais c'est absolument vrai. C'est la première fois qu'on passait quelques jours ensemble et elle m'a massé un poulet.
Et vous êtes vu dans le rôle du poulet alors.
Mais
après.
Non, voilà, elle était en culotte, elle dansait sur de la musique sud-américaine et elle massait son poulet. Alors, moi j'ai beau être gastronome, j'en suis pas moins homme et je me suis dit on peut vraiment avoir une vie comme ça. Et j'ai dit faisons un enfant.
Quelle belle déclaration, mais voilà une belle déclaration.
Et là maintenant on a un petit poulet de 7 mois, 12 kilos qui s'appelle Ilyusha. Qui va très bien.
C'est le confinement, les amis, vous qui êtes en couple et qui nous écoutez, vous avez compris, hein, pour donner un petit peu de peps aussi, massons des poulets tous ensemble.
Oui.
Allez, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, Johan Sfar. Quel est le goût de votre enfance, Johan ?
Les petits pots pommes-coins.
Ah, c'est vraiment la oui, c'est bébé ça alors.
Bah oui, mon enfance, c'est ça quoi.
Oui, c'est vrai, mais
les
vous avez
petits pots pommes quoi,
ça
j'adorais
me revient.
Ça.
Oui, mais oui, c'est vrai que enfant, on peut être déjà régressif parce que quand on a 4-5 ans, on aime bien retrouver les goûts de bébé.
Mais oui, j'adorais ça.
Le premier plat que vous avez cuisiné ?
Des gâteaux marbrés avec ma tante. Le visuel là de la vanille et du chocolat qui se mélange et tout, c'est on devient peintre grâce à ça. Hein.
Votre plus beau repas dans le sens inoubliable ?
J'ai eu la chance de dîner avec Georges Moustaki. Je me souviens plus de ce qu'on a mangé. Mais on mange aussi les conversations.
C'est vrai que c'est l'ambiance, c'est les personnes avec qui on est, c'est le moment.
Mais oui.
Votre pire repas, Johan ?
Alors, ne le prenez pas pour vous. C'est quand on est invité à la télé dans les émissions où on bouffe. Et je les aime tous, mais on est toujours filmé au moment où on a la frisée au lardon dans la bouche. Et ça, c'est vraiment un cauchemar.
C'est vrai que c'est compliqué.
Vous pouvez venir à la radio. Hein.
Oui, voilà. Oui, mais vous filmez aussi, oui, alors voilà. On s'en sent plus.
C'est vrai que c'est compliqué. Votre bande originale pour cuisiner, tiens.
Bah, j'en reviens à ma femme qui cuisine en mettant Antonio Carlos Jobim et elle bouge les fesses pendant qu'elle cuisine. Et moi, j'aime et la bouffe et les fesses, donc je suis très content.
Ah oui, mais je vous comprends. Qui sont les invités de votre dîner idéal, Johan ?
Oh, faut que ça parle beaucoup. Faut des disputes politiques. J'adore que les gens s'engueulent sur un sujet très très grave, hein, genre... quel que soit le sujet grave. Là, quand ça hurle et que ça mange, je suis ravi.
Quitte à le lancer, ce sujet, justement, pour qu'il se crée quelque chose. Oui. Hein. Quel plat vous emmèneriez sur une île déserte ?
Vous allez me haïr. Des céréales. Et... J'adore les céréales, j'adore le granola. C'est le truc dont je peux vraiment pas me passer, les céréales du matin. Vous allez me foutre dehors.
Non, on peut faire le granola soi-même, attention, il y a de bons granolas.
Ah bah voilà.
Même dans le commerce, on en trouve des bons aujourd'hui, il faut dire la vérité.
Ah bah voilà, moi je peux survivre avec ça.
Avec des céréales complètes et des sucres pas trop raffinés, on trouve de belles choses.
Bah voilà. En 100 émissions, personne ne nous avait jamais fait le coup des granolas sur une île déserte.
Ça, c'est vrai.
Je suis inexcusable.
Et quel est le dernier plat que vous avez cuisiné, Johan Sfar ?
Mais moi, je sais rien faire. Alors parfois, je lui fais une vague salade et elle me dit « Bon, t'as fait un effort, mais je sais absolument rien faire. » Ou je lui fais un thé en mettant du gingembre dedans et des pommes. Enfin, non, je suis une honte, je suis un bouffeur, je suis pas un cuisinier.
Pourtant, vous avez vu votre grand-mère cuisiner énormément, vous nous l'avez dit.
Oui, je peux vous dessiner ma grand-mère.
Pourquoi il n'y a pas de passage à l'acte en cuisine ?
Mais j'en sais rien, moi j'adore les romans policiers, j'ai jamais tué personne, je sais pas pourquoi. Je sais pas. C'est la honte.
Et le mot de la fin, F-A-I-M.
Je... J'en sais rien, on va tous grossir, on va tous encore faire des pains loupés à la maison, c'est terrible. Vivement que ça réouvre, quoi.
Ça, c'est vrai. C'est un joli mot de la fin. Oui, c'est vrai. Le pain, voilà, les boulangers sont ouverts, on n'est pas obligé de faire tous son pain non plus. C'est vrai, rendons visite.
Ni d'élever son levain.
Voilà, et le levain, mais voilà, je le redis encore une fois, nos restaurateurs restent ouverts pour livrer et vendre à emporter. Merci infiniment, Johan Sfar, d'être venu à cette table.
Merci.
Vous êtes un très bon vivant et je rappelle votre Chat du Rabbin aux éditions Poisson Pilote. Et puis on attend le retour du Petit Vampire sur les écrans.
Merci.
Et puis il y a Gainsbourg, votre film magnifique qu'on peut voir aussi en VOD.
Magnifique.
Mais oui.
Un chef-d'œuvre. Vous avez eu un César pour ce film.
Mais oui, mon comédien aussi, Eric Elmoschino. Ouais.
Merci d'être venu, Johan Sfar, à la table des bons vivants. Commandez au restaurant et puis lisez aussi, on peut toujours lire. Merci à notre...
Et faites de la cuisine quand même. Hein.
Et faites de la cuisine.
Ah oui,
faites le marché, la cuisine et le reste, parce qu'effectivement, les marchés restent ouverts. Merci à ma belle équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Vous retrouvez toutes les émissions en podcast sur europe1.fr et toutes les belles références, dont le coulant au chocolat de Michel Brass. Sur europe1.fr, bon week-end, c'est Europe Midi dans un instant. Bon week-end sur Europe 1.
Merci beaucoup.